Étienne Bonneau de Condillac, 1755, Traité des animaux, seconde partie, Système des facultés des animaux. Chapitre 1er. De la génération des habitudes communes à tous les animaux. Au premier instant de son existence, un animal ne peut former le dessein de se mouvoir. Il ne sait seulement pas qu'il a un corps, il ne le voit pas, il ne l'a pas encore touché. Cependant, les objets font des impressions sur lui. Il éprouve des sentiments agréables et désagréables. De là naissent ses premiers mouvements. Mais ce sont des mouvements incertains. Ils se font en lui sans lui. Il ne sait point encore les régler. Intéressé par le plaisir et par la peine, il compare les états où il se trouve successivement. Il observe comment il passe de l'un à l'autre et il découvre son corps et les principaux organes qui le composent. Alors son âme apprend à rapporter à son corps les impressions qu'elle reçoit. Elle sent en lui ses plaisirs, ses peines, ses besoins, et cette manière de sentir suffit pour établir entre l'un et l'autre le commerce le plus intime. En effet, dès que l'âme ne se sent que dans son corps, c'est pour lui comme pour elle qu'elle se fait une habitude de certaines opérations, et c'est pour elle comme pour lui que le corps se fait une habitude de certains mouvements. D'abord, le corps se meut avec difficulté, il tâtonne, il chancelle, l'âme trouve les mêmes obstacles à réfléchir, elle hésite, elle doute. Une seconde fois, les mêmes besoins déterminent les mêmes opérations et elles se font de la part des deux substances avec moins d'incertitude et de lenteur. Enfin, les besoins se renouvellent et les opérations se répètent si souvent qu'il ne reste plus de tâtonnement dans le corps ni d'incertitude dans l'âme. Les habitudes de se mouvoir et de juger sont contractées. C'est ainsi que les besoins produisent d'un côté une suite d'idées et de l'autre une suite de mouvements correspondants. Les animaux doivent donc à l'expérience les habitudes qu'on croit leur être naturelles. Pour achever de s'en convaincre, il suffit de considérer quelques-unes de leurs actions. Je suppose donc un animal qui se voit pour la première fois menacé de la chute d'un corps, et je dis qu'il ne songera pas à l'éviter, car il ignore qu'il en puisse être blessé. Mais s'il en est frappé, l'idée de la douleur se lie aussitôt à celle de tout corps prêt à tomber sur lui. L'une ne se réveille plus sans l'autre, et la réflexion lui apprend bientôt comment il doit se mouvoir pour se garantir de ces sortes d'accidents. Alors il évitera jusqu'à la chute d'une feuille. Cependant, si l'expérience lui apprend qu'un corps aussi léger ne peut pas l'offenser, il l'attendra sans se détourner, il ne paraîtra pas même y faire attention. Or, peut-on penser qu'il se conduise ainsi naturellement? Tient-il de la nature la différence de ces deux corps ou la doit-il à l'expérience? Les idées en sont-elles innées ou acquises? Certainement, s'il ne reste immobile à la vue d'une feuille qui tombe sur lui, que parce qu'il a appris qu'il n'en doit rien craindre, il ne se dérobe à une pierre que parce qu'il a appris qu'il en peut être blessé. La réflexion veille donc à la naissance des habitudes, à leur progrès, mais à mesure qu'elle les forme, elle les abandonne à elle-même, et c'est alors que l'animal touche, voit, marche, etc., sans avoir besoin de réfléchir sur ce qu'il fait. Par là, toutes les actions d'habitude sont autant de choses soustraites à la réflexion. Il ne reste d'exercice à celle-ci que sur d'autres occasions qui se déroberont encore à elle, si elle tourne en habitude, et comme les habitudes empiètent sur la réflexion cède aux habitudes. Ces observations sont applicables à tous les animaux. Elles font voir comment ils apprennent tous à se servir de leurs organes, à fuir ce qui leur est contraire, à rechercher ce qui leur est utile, à veiller, en un mot, à leur conservation.